La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier. La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.
Bonjour à tous. Bonjour Hélène Ambles. Bonjour Roselyne Falip. Hélène, vous êtes directrice du développement du Pass Culture. Roselyne, vous êtes chargée de développement du Pass Culture pour la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et pour la Corse. Le Pass Culture, rappelons ses origines et son ADN, est né de la volonté affirmée par le candidat Emmanuel Macron en 2017 de mettre à disposition des jeunes un nouveau dispositif favorisant, je cite, « l'accès à la culture afin de renforcer et de diversifier les pratiques culturelles en révélant la richesse culturelle des territoires ». En 2019, la mission de service public du Pass Culture s'est dotée d'une nouvelle organisation en s'appuyant sur une société par action simplifiée, une SAS, dont les actionnaires sont le ministère de la Culture et la Caisse des dépôts. En janvier 2022, cette année, le ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports s'est joint à ce partenariat dans le cadre de la mise en place du Pass Culture pour les jeunes de 15 à 17 ans et ceux scolarisés de la classe de 4e à la terminale, en collaboration avec les ministères de l'Agriculture et de l'Alimentation, des Armées et de la Mer, en charge de l'enseignement agricole, militaire et maritime. Quelques chiffres. Au 1er janvier 2022, le Pass Culture représentait un peu plus d'un million d'utilisateurs. Et lorsque j'ai préparé cet entretien, fin septembre, on en recensait un peu plus d'1,7 million, avec 10 millions de réservations effectuées et 11 000 acteurs artistiques et culturels référencés. Malgré ce succès encourageant, certains parlementaires s'interrogent et se sont interrogés sur le bien fondé de ce qu'ils considèrent comme un chèque supplémentaire de soutien à la consommation des jeunes. D'autres parlementaires ont déploré le coût du Pass Culture au regard de la classe d'âge concernée par le Pass Culture. D'après les estimations de l'INSEE, les 15-19 ans en France représentent un peu plus de 4 millions de personnes. Or, comme certains parlementaires le soulignaient en janvier dernier, avec 1,18 million d'utilisateurs, je cite, on est loin du compte. Malgré ces réserves, malgré ces interrogations, on peut objectivement considérer que le Pass Culture est une vraie opportunité pour, d'une part, les acteurs artistiques et culturels, mais aussi pour les collectivités, régions, départements, communes. Simplement, la question qu'on se pose peut-être, ou que le Pass Culture met en lumière aujourd'hui, c'est le souci ou le besoin d'articuler le dispositif national avec des dispositifs qui ont été mis en place, d'ailleurs souvent un peu avant le Pass national, par des collectivités régionales ou départementales. Hélène, je vous laisse, j'ai cité quelques chiffres qui datent de janvier 2022 et de septembre 2022 sur le nombre d'utilisateurs du Pass. Je vous laisse actualiser ces chiffres si vous le souhaitez.
Oui, merci beaucoup, parce que c'est vrai que les choses bougent vite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est à 2,5 millions d'utilisateurs pour le Pass Culture, dont la moitié a moins de 18 ans. Donc voilà, c'est important d'actualiser parce que le Pass touche de plus en plus et de mieux en mieux les jeunes. On sait que on a près de 75% des jeunes de 18 ans qui ont activé leur Pass Culture. Donc on a là un taux de couverture sur cet âge-là qui est très important. On sait que sur les 15, 16, 17, on a encore un travail de communication, un travail de mobilisation via les familles, via les établissements scolaires, pour effectivement atteindre au maximum le nombre de jeunes par classe d'âge. Mais voilà, c'était quand même super important de pouvoir rappeler ce chiffre. En termes d'acteurs culturels, on est à 14 000 acteurs culturels qui sont inscrits sur le Pass, puisque sans cesse, nous allons chercher de nouveaux acteurs culturels pour qu'il y ait de plus en plus d'offres pour ces jeunes. Et puis sur la part collective que vous évoquiez, qui a donc été lancée en janvier, qui là va toucher les établissements scolaires de la classe de 4e à la terminale, depuis septembre 22, donc il y a quelques mois, on a déjà touché 1 million d'élèves qui ont pu avoir des activités d'EAC via la part collective. Voilà, donc c'était important de pouvoir actualiser ces chiffres qui augmentent tous les jours au Pass Culture grâce à la mobilisation des équipes et au travail des acteurs culturels.
Merci beaucoup Hélène. D'ailleurs, j'en profite pour vous poser la question. Les rebonds de fréquentation et d'utilisation du Pass Culture correspondent à ceux de la rentrée, par exemple, la rentrée scolaire a donné l'occasion à beaucoup de jeunes de découvrir le pass et de s'inscrire.
Ça peut y contribuer, notamment effectivement via les enseignants qui peuvent à la fois expliquer qu'ils vont faire des activités d'EAC en collectif, mais que dès qu'ils ont 15 ans, ils peuvent aussi activer leur part individuelle du pass culture. On a aussi lancé une nouvelle campagne de communication il y a quelques semaines. Voilà, le bon plan, c'est le pass culture pour faire des activités culturelles. Donc, je pense qu'il y a de multiples raisons qui font que on a de plus en plus de jeunes qui s'inscrivent. On a aussi de plus en plus les acteurs culturels eux-mêmes qui expliquent dans leur communication, dans leur lieu, que on peut aller au concert grâce au pass culture, on peut aller au cinéma grâce au pass culture. Donc, c'est vraiment cette mobilisation, je pense, générale qui fait que au maximum, les jeunes qui ont droit à ce pass culture activent et en bénéficient.
Merci, on aura l'occasion de revenir sur le pass culture au niveau national. Mais comme on travaille au CNFPT pour fréquenter la radio des agents territoriaux, on va faire un focus sur, si vous me permettez, avec Roselyne, sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse, parce que ce sont deux régions peut-être particulières. Bon, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur compte à peu près 5 millions d'habitants, la Corse beaucoup moins, 350 000. Est-ce que vous avez des chiffres disponibles que vous pouvez nous communiquer sur le nombre d'utilisateurs?
Oui, bonjour. Donc, on va commencer peut-être par la région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour dire que sur cette région, le développement du dispositif, il est dans des chiffres similaires à ceux qu'on trouve au niveau national. Les chiffres de la région sont un taux de couverture de plus de 70% pour les jeunes de 18 ans et plus résidant en Provence-Alpes-Côte d'Azur. On atteint même près de 75% dans le Vaucluse, donc le taux que signalait Hélène Amblès précédemment. Vaucluse qui était un département d'expérimentation du dispositif, donc qui a expérimenté le dispositif depuis 2019. Et globalement, pour les jeunes de 15 à 17 ans, donc ils sont eux éligibles au Pass Culture depuis le mois de janvier dernier uniquement, donc ça fait même pas une petite année. Ils s'inscrivent peu à peu, c'est vrai, dans des quantités moindres que les jeunes de 18 ans et plus, mais avec une couverture qui ne cesse d'augmenter. On est environ 35% des jeunes de cette classe d'âge qui sont inscrits sur le dispositif, donc en région PACA. Et si on passe en Corse, alors la Corse est un territoire où, en effet, il y a beaucoup moins de jeunes qui sont éligibles au dispositif. Ils sont près de 4000 jeunes inscrits sur le dispositif en Corse et 4000 jeunes qui se répartissent de façon similaire aux autres régions, donc beaucoup de jeunes de 18 ans et plus et puis des jeunes de 15-17 ans qui s'inscrivent aussi peu à peu et qui prennent peu à peu connaissance du dispositif.
Merci beaucoup Rosine. J'en profite je vais m'interroger en vous entendant et en vous écoutant, Rosine. Est-ce que vous avez des données sur les territoires d'outre-mer?
Je pense laisser la parole plus à Hélène Amblès qui, je pense, a plus les éléments à ce sujet.
Bien sûr.
Oui, bien sûr. Donc effectivement, le pass culture est présent sur l'ensemble du territoire français, y compris en outre-mer. On a un développement du pass qui suit un cours qui est quand même très très satisfaisant dans ces territoires dont certains ont une population avec une jeunesse très importante, hein, je pense à la Guyane qui était également comme le Vaucluse territoire d'expérimentation dès 2019. On a aujourd'hui donc sur l'ensemble des territoires ultramarins sur lesquels on est présent, c'est-à-dire Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. On va déployer l'année prochaine Saint-Martin et Saint-Barth. Donc sur les 6 territoires que j'évoquais plus tôt, on a 55 000 jeunes inscrits, dont la moitié à peu près hein, est âgée de moins de 18 ans. Et on a environ 480 à 500 partenaires culturels inscrits. Donc voilà, donc on a une attention particulière sur ces territoires sur lesquels Il y a eu aussi un impact très fort de la crise sanitaire, plus même qu'en métropole, et donc sur lequel on a besoin aussi de faire un accompagnement plus spécifique pour aller chercher les acteurs culturels et aussi bien passer l'information aux jeunes. Et on a parfois effectivement des situations sociales plus délicates, mais comme dans les autres régions et comme Roselyne en est la parfaite incarnation, on a des collaborateurs, donc on a deux personnes en Outre-mer qui couvrent ces différents territoires.
Merci. Lors de son audition devant les parlementaires cette année, Sébastien Cavalier, le président du Pass Culture, avait été interrogé par des parlementaires sur le taux de couverture des utilisateurs du Pass Culture en zone rurale. Et il avait avancé des chiffres intéressants en disant et en rappelant aux parlementaires que en France, les jeunes vivant en zone rurale représentaient 12,5% de la population nationale, jeunes, et que en termes d'utilisateurs du Pass Culture, ils étaient 11,5%, ce qui était très très proche de la représentation nationale des jeunes en milieu rural. Ces chiffres-là sont toujours valables fin 2022.
Oui, absolument, ils sont valables, c'est-à-dire que on voit que nos ratios en termes d'utilisateurs du pass, que ce soit des jeunes en milieu urbain ou des jeunes en milieu rural, correspondent en fait aux moyennes nationales. Et c'est la même chose quand on regarde plus spécifiquement les quartiers politiques de la ville, par exemple, où là, j'ai regardé les chiffres, on a 8% d'utilisateurs du pass qui habitent dans des quartiers politiques de la ville, et à la moyenne nationale, c'est 8%. Donc on est effectivement dans des chiffres vraiment similaires et homogènes avec la moyenne nationale. Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on constate, c'est que les jeunes utilisateurs du pass qui habitent en quartier politique de la ville ou en zone de revitalisation rurale, sur ces secteurs-là, ont souvent une activité plus forte et plus intense du pass que les autres jeunes utilisateurs. Donc voilà, on voit que ça correspond sûrement à un besoin assez important, et on va lancer dans les prochaines semaines une action en lien avec le ministère de la Culture, vraiment pour mieux comprendre et mieux accompagner ces jeunes qui sont en milieu rural, puisque bah souvent, par définition, il y a moins de lieux culturels, mais néanmoins, on va faire ce travail pour qu'ils puissent avoir accès à un maximum d'offres grâce à l'application, en allant chercher des acteurs qui sont culturels et éducatifs, par exemple, des tiers-lieux, pour que du coup, tous les jeunes aient accès à une offre la plus riche possible, quel que soit leur lieu de résidence.
Merci beaucoup Hélène de toutes ces précisions. C'est vrai que sur l'offre culturelle, les parlementaires, et moi aussi j'en ai fait l'expérience à titre personnel, avaient certains parlementaires émettaient l'objection auprès de Sébastien Cavalier, le président du Pass Culture, que finalement, et je crois que c'est une enquête que vous avez réalisée avec le Prodis auprès des jeunes utilisateurs qui le confirmaient, les jeunes comme leurs aînés suivent des courants culturels dominants, et donc musique urbaine, plutôt commerciale. Les concerts également, ils sont attirés, et c'est bien normal finalement, par les têtes d'affiche. Et à titre personnel, j'ai vécu la même expérience avec ma fille, qui donc n'est pas dans la tranche d'âge touchée par le pass culture, mais plutôt un pass collégien. Et avec son pass collégien, elle a acheté des mangas. Elle n'a pas acheté de la littérature, de niveau culturel un peu exigeant, mais plutôt de la littérature de divertissement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer les jeunes vers une offre culturelle diversifiée et plus exigeante?
Alors, c'est un vaste sujet. Le principe du pass culture, c'est vraiment de laisser la liberté totale aux jeunes dans leur choix. C'est-à-dire qu'on considère qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les cultures, et que, pour reprendre l'exemple du manga, parce que c'est souvent celui qu'on évoque, lire un manga, c'est lire, et voilà, c'est déjà c'est une pratique de la lecture. Donc voilà, ça c'est important de le dire, parce que il peut y avoir des dispositifs de pass qui disent pour faire un peu d'opéra, puis un peu de lecture, puis voilà. Donc c'est pas le choix qui a été fait sur le pass culture français, qui a été basé sur la liberté qui est laissée aux jeunes dans ses choix. Après, une fois qu'on a dit ça, et nous, notre mission au pass culture, c'est d'inciter les jeunes à être curieux, c'est de leur donner envie de sortir de leur zone de confort, peu importe s'ils vont apprécier ou pas ce qu'ils auront vu. mais c'est de leur ouvrir des portes, de leur donner accès et de faire en sorte qu'ils se sentent légitimes à faire telle ou telle pratique, à aller dans tel ou tel lieu. Donc, c'est vraiment le sens de notre travail. Et d'ailleurs, on voit que il y a un nombre considérable de jeunes qui vont commencer par acheter un manga, parce que c'est vrai que les jeunes aiment les mangas, donc du coup, ils se servent du Pass Culture pour acheter des mangas. Mais quand on regarde, en fait, sur le chiffre total des ventes qui sont générées en matière de lecture, le manga, ça représente 40%. Donc voilà, c'est important, mais c'est pas l'essentiel de leurs achats. Et ce qu'on voit, c'est que les jeunes qui achètent un manga, ils vont acheter autre chose. Ils vont en profiter pour acheter un beau livre, pour acheter aussi des romans. Donc vraiment, le Pass Culture, c'est une porte d'entrée. Et vous le savez sûrement, mais c'est important de le rappeler, il n'y a pas de service de livraison avec le Pass Culture. Nous, on met en contact des jeunes et des lieux et des acteurs culturels. Donc le jeune va aller dans une librairie pour aller chercher peut-être le manga qu'il a effectivement réservé avec le Pass Culture. Et en fait, le libraire ensuite, c'est à lui de bien accueillir le jeune et de lui montrer qu'il y a plein d'autres ouvrages à sa disposition. Ils le font merveilleusement dans toute la France. On a des super retours des libraires qui nous disent qu'ils voient arriver un public différent ou alors un public de jeunes qui vient chez eux pour se faire plaisir et pas pour acheter l'ouvrage qu'il faut lire pour le cursus scolaire. Donc voilà, c'est une nouvelle fréquentation des librairies qui se fait grâce au Pass Culture. Et effectivement, donc notre travail, il est cette idée de diversifier leur regard et leur pratique, encore une fois sans hiérarchie sur telle ou telle forme. Donc on essaye, notamment avec la page d'accueil de l'application, de leur proposer des choses très diverses à proximité de chez eux, puisque vous le savez, l'atout de cette application, c'est qu'elle est géolocalisée. Donc on peut lui montrer des choses qui sont à proximité, à 100 mètres ou à l'autre bout de la ville, mais dans des distances très très faciles, pour qu'ils découvrent des opérations. Et au-delà de découvrir un lieu, parce que souvent ça suffit pas, on est en contact quotidien avec les acteurs culturels, avec les cinémas, avec les théâtres, pour imaginer avec eux des opérations qui vont réserver aux jeunes un accueil vraiment spécifique et au sein desquels ils vont pouvoir vivre des expériences uniques qui vont leur donner envie sûrement de recommencer et d'être curieux ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment ce qui fait le cœur de notre mission au Pass Culture, puisque il faut bien se dire que quand on a entre 15 et 20 ans, souvent on est sur les premières fois culturelles, la première fois qu'on va fréquenter un cinéma tout seul, parce qu'on y est peut-être allé avec la classe ou avec les parents, mais tout seul ça va être la première fois. Donc nous vraiment ce qu'on cherche c'est leur faire vivre des expériences uniques et les amener un peu, encore une fois, un peu hors des sentiers battus. Et on a de plus en plus d'expériences qu'on a pu mener dans toute la France et dans tous les domaines qui montrent que ça fonctionne et que les jeunes... Encore une fois, quand on les accueille avec un petit peu d'égard et avec un programme spécifique, ils sont très curieux et ils sont prêts à découvrir des choses et à ne pas rester que dans une seule discipline.
C'est vrai, c'est tout à fait vrai ce que vous dites. Et peut-être que la valeur ajoutée principale du Pass Culture, elle réside justement dans ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire l'association de l'achat plaisir, pardon, c'est un peu, mais l'achat plaisir dans des lieux qui sont associés à des achats contraints, à l'élite scolaire, et je citerai encore ma fille, elle a acheté des mangas, elle est rentrée à la maison avec un titre coquin, mais elle s'était fait plaisir, et elle s'était fait d'autant plus plaisir qu'elle était allée à la librairie où d'habitude elle achète ses livres scolaires. Et c'est vrai que ça a changé, j'ai l'impression que ça a changé sa perception, la perception qu'elle avait de l'endroit qu'est la librairie. C'est possible, tout à fait. Parce que j'avais longuement écouté l'audition de Sébastien Cavalier devant les parlementaires, et le président du Pass Culture évoquait aussi le fait que des jeunes, grâce au Pass, ont entamé des pratiques artistiques. Est-ce que vous pouvez en parler quelques minutes?
Oui, bien sûr, c'est vrai. Oui, alors je ne sais pas si Rosine a les chiffres en tête, mais en tout cas, bien entendu, les pratiques artistiques font partie de toutes les activités possibles par le Pass Culture. Les jeunes apprécient beaucoup. Pendant très longtemps, les achats d'instruments de musique, c'était le troisième poste de dépense des jeunes. Donc on a vu notamment au lancement du Pass Culture, quand il y avait encore pas mal de lieux culturels qui étaient fermés, des jeunes qui se sont vraiment saisis de l'opportunité et notamment des 300 euros à 18 ans pour s'acheter un instrument, donc par exemple une guitare qui peut être accessible avec 300 euros, ou alors pour contribuer à un achat d'un instrument qui peut valoir des sommes assez importantes. Donc l'achat d'instruments de musique est assez révélateur de la manière dont le pass accompagne et permet la pratique artistique et culturelle. Après, avec le pass, vous pouvez aussi du coup participer à un cours de danse, de sculpture. Vous pouvez aussi, quand certaines collectivités ont décidé de s'inscrire sur le pass, payer une partie de votre abonnement dans un conservatoire. Donc c'est hyper important effectivement que la pratique artistique soit accessible par le pass, et les jeunes ont bien saisi l'opportunité.
Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'on a évoqué là, on évoque depuis le début de l'entretien l'intérêt du pass culture à acheter des produits culturels ou des prestations artistiques et culturelles. Depuis la sortie du Covid, des espaces culturels de premier plan, les médiathèques, les bibliothèques, sont gratuites par définition, notamment pour les jeunes, ont vu leur fréquentation chuter, et cette fréquentation remonte très difficilement. J'ai pas les derniers chiffres en tête, mais c'est des préoccupations chez les bibliothécaires. Est-ce que le pass culture vous donne l'occasion d'orienter l'attention des jeunes sur des espaces qui sont gratuits, mais qui sont des grandes ressources culturelles mises à disposition par les collectivités, notamment pour les jeunes?
Vous appuyez sur un de nos éléments aussi de priorité cette année, puisqu'effectivement, on s'est rendu compte en début d'année, moi quand je suis arrivée au Pass Culture, que un certain nombre de lieux culturels comme les médiathèques, comme les musées, comme les centres d'art, dont l'accès est gratuit pour les jeunes, ne s'étaient pas inscrits sur le pass, puisqu'ils se disaient, si le pass, ça sert à acheter des choses, ça sert à rien qu'on soit sur le pass culture. Or, nous, on pense l'inverse, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a 2,5 millions de jeunes qui sont sur le pass culture. C'est super important que tous ces lieux culturels apparaissent bien dans cet environnement qui s'ouvre via l'application, puisque de plus en plus, les jeunes consultent l'application pour savoir ce qu'ils ont envie de faire. Et donc, on est vraiment dans une démarche d'aller chercher tous ces établissements, de mobiliser les collectivités pour qu'elles inscrivent leurs médiathèques, leurs musées, leurs centres d'art. Aussi parce que, de plus en plus, on veut valoriser sur l'application des offres gratuites. On n'est pas dans une logique de forcément avoir des offres payantes. D'ailleurs, le modèle culturel français, il est aussi beaucoup construit sur la gratuité, puisque les pouvoirs publics accompagnent pour que la barrière financière soit la moins importante possible. Donc, on a d'ailleurs, avec Roselyne notamment, puisqu'elle m'accompagne sur cette question-là, on a fait un gros travail pour aller chercher les médiathèques cette année. On était présents au congrès de l'Association des bibliothécaires de France. On a de plus en plus de médiathèques qui s'inscrivent, puisqu'on a doublé le nombre de médiathèques inscrites depuis le début de l'année. On a encore beaucoup de travail parce que elles sont très nombreuses en France et qu'effectivement, elles ont pas mal de difficultés dans le quotidien. Mais nous, vraiment, on les incite à s'inscrire, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire avec le pass. Déjà, montrer qu'elles existent, montrer les expositions qu'elles peuvent organiser ou les rencontres avec des auteurs, etc. Et parfois, il y a une partie de l'abonnement qui peut être payant quand c'est pour des services spécifiques. Et là aussi, ça peut être accessible via le pass culture. Roselyne, je te laisse peut-être compléter sur un sujet que tu connais bien.
Sur les bibliothèques, oui, en effet, parce que je travaille au sein du pass culture aussi sur cette thématique. Ce qu'on peut dire aussi côté jeunes, c'est que donc depuis ce travail qu'on a commencé au début de l'année sur cette thématique des bibliothèques, le nombre de jeunes qui a consulté les offres de bibliothèques a été multiplié par plus de 4. Grâce à donc tout ce travail de mise en avant aussi de ces offres qui sont bien souvent gratuites, hein, c'est plus de 80% des offres de bibliothèques proposées sur le pass qui sont gratuites. Et pas uniquement des offres d'abonnement, mais aussi toutes les offres d'action culturelle que proposent les bibliothèques sur des thématiques qui intéressent particulièrement les jeunes, parce qu'on sait que sur le pass culture aujourd'hui, les deux catégories qui sont les plus plébiscitées sont le livre et le cinéma, qui sont des thématiques qui sont largement développées par les bibliothèques.
Merci beaucoup. Et il faut rappeler, si on l'a oublié, que le réseau des médiathèques en France est le premier réseau culturel en France. Le premier réseau culturel, c'est les médiathèques. Roselyne, merci beaucoup. Hélène, merci infiniment pour ces éclairages et ces précisions sur le pass culture. C'est passionnant. On aura l'occasion d'évoquer plus tard, je l'espère, les pistes de collaboration avec les collectivités. Il faudra qu'on en parle. En attendant, chers auditeurs, vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site radio.cnfpt.fr. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.